La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche que je vais consacrer aujourd'hui au pain, jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages suivants « Cuisine et fêtes traditionnelles en Limousin » de Yannick Bobati, « Une enfance » de Jules Marouzeau, « La société rurale en Limousin et Basse Marche » d'Albert Gourceau, « Guide des richesses artistiques de la Haute-Vienne » de Daniel Arnaud, « La vie d'un simple » d'Émile Guillaumin, « Mémoire manuscrite » de Jean-Marie Autier, « Bergère, éternelle bergère » de Louis Peignot et « L'enfant sous les charmes » de Paul Lavergne.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Dans un ouvrage de Yannick Bobati, Cuisine et fêtes traditionnelles en Limousin, on peut lire ceci à propos du pain. L'aliment roi, qui est dans la région Limousin le pain, confère aux céréales panifiables un prestige évident. Les hommes de notre région en ont fait une consommation immodérée. Ainsi, Voltaire, par exemple, peut-il écrire dans son dictionnaire philosophique que le manœuvre limousin en dévore à son époque, donc au XVIIIe siècle, 4 livres, soit 2 kilos par jour, surtout en le trempant dans l'eau de la soupe. Songeons que de 1909 à 1914, on estime le poids de la ration de pain par jour à 600 grammes. Et dans les années 1930, à 500 grammes. En 1960-1962, on est tombé à 260 grammes par jour. Les boulangers, dans nos campagnes, n'avaient pas le monopole. La panification domestique était donc fréquente. Les populations rurales, la plupart du temps, faisaient leur fournée elles-mêmes tous les 2, 3, voire 4 semaines. Les hommes devaient entretenir, chauffer le four, celui de la ferme ou celui du village et surveiller les cuissons. La veille, la maîtresse de maison avait préparé le levain. Cette boule de pâte, salée et enfarinée, provenait des grains, seigles ou froment que les paysans eux-mêmes avaient récoltés puis fait moudre. De grand matin, la femme se penchait sur la mets, empoignait cette préparation qui, délayée dans de l'eau tiède, avait gonflé toute la nuit. La pétrissait, tournait, retournait, malaxait, jusqu'à ce qu'elle n'embraine plus les doigts, qu'elle ne colle plus les doigts. Il fallait en effet obtenir une substance élastique, souple, lisse et homogène que l'on disposait ensuite, divisée en pâtons de forme ronde, dans des paniers à tourte confectionnés en ronces, enfarinés ou garnis d'un linge. Sous l'action de la chaleur, les miches, aussitôt doublées de volume, prenaient une teinture dorée, devenaient croustillantes, bombées, exhalaient des fragrances à damner un saint.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Écoutons maintenant ces témoignages locaux. Il fallait aussi garder la quantité de blé nécessaire à la confection du pain de ménage. C'est un travail formidable et je me souviens exactement la façon dont maman s'y prenait. La veille au soir, elle préparait le levain, un morceau de pâte grise qu'elle avait gardé dans une terrine, dans un coin de la mets, qu'elle délayait avec de l'eau, de la farine et une bonne poignée de sel. Alors, le lendemain matin, elle s'était levée de bonne heure bien avant nous. Elle avait ajouté au levain de l'eau, de la farine. Elle avait brassé la pâte, elle avait divisé la pâte en pâtons qu'elle avait disposés dans des corbeilles saupoudrées de farine grossière, du gruau. On la laissait reposer ainsi 2 heures. La pâte gonflait, elle remplissait toute la corbeille. Pendant ce temps-là, elle préparait le four. C'était presque toujours avec des bourrées d'épines noires. Elle remarquait à la couleur de la voûte si c'était suffisamment chaud. Elle retirait toutes ses braises à droite, à gauche, à l'avant et elle se préparait à enfourner. Elle prenait ses panières et d'un geste vif, elle les retournait sur la large pelle à four. Elle soulevait, elle emmanchait et elle avait un certain coup de main pour retirer la pelle de manière à ce que la miche de pain se place juste au bon endroit. Elle bouchait le four bien hermétiquement et de temps en temps, elle allait y jeter un coup d'œil. On le voit, ce témoignage nous donne une indication supplémentaire sur l'utilisation du four, sur lequel nous reviendrons. Écoutons maintenant ce texte de Jules Marouzeau. Une fois par quinzaine, la cheminée avait un concurrent, c'était le four. Quelques soirs, ma mère nous quittait après le dîner et revenait toute blanche de farine en disant « j'ai mis le levain ». Cela signifiait que le lendemain, on devait chauffer le four. Ici encore, ma grand-mère avait son rôle. Elle s'affairait de grand matin dans la buanderie à brûler au fond du four, fagots et bûches, pendant qu'à la maison, ma mère préparait la fournée. Pour ma mère, je dorais les pâtés avec une plume de coq imbibée de jaune d'œuf. Pour ma grand-mère, j'allais mouiller au ruisseau le grand balai de genêt qui lui servait à retirer les braises, et c'était une belle chose que de l'avoir l'enfoncé dans la gueule d'enfer où voltigeaient de rouges incandescences de faisceaux ruisselants soudain embués de vapeurs écarlates. C'était le moment d'apporter sur ma tête les paillons emplis de la pâte palpitante des tourtes et les planches farineuses pavées de tartes. Ma grand-mère enfournait haletante, car il fallait faire vite pour que la chaleur ne se perdît pas. Et quand c'était fini, la gueule du four refermée sur sa pâture, la brave femme prenait l'air de quelqu'un qui avait fait de grandes choses. Se couvrait les épaules d'un châle, serrait les brides de son bonnet et avalait un grand verre de vin rouge pour se remettre les sangs.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Albert Gourceau, dans la Société Rurale en Limousin et Basse-Marche, nous précise les différentes étapes de la fabrication du pain comme nous venons de le voir et nous donne des détails plus précis. À la demande, le meunier livrait la farine blutée ou non blutée. En ce dernier cas, la farine et le son étaient séparés par un petit étranglement pratiqué dans le sac à l'aide d'une ficelle. Le levain était parfois gardé d'une fournée à l'autre, mais le plus souvent, on se le passait de maison à maison, de manière à l'avoir toujours frais. La pâte était pétrie dans la mets. C'était presque toujours un travail de femme, surtout de jeune femme, car la tâche était pénible. Et l'auteur de nous préciser qu'une jeune fille capable de bien faire le pain trouvait toujours facilement à se marier. Pour activer la fermentation de la pâte, on recouvrait les paliches où l'on avait placé les boules de pâte par des sacs. Mais quand il faisait très froid, il était plus prudent de les placer bien au chaud, sous l'édredon du lit. On chauffait le four avec des fagots de genêt ou de bois bien sec. Braise était ensuite ramenée vers la gueule du four avec une sorte de raclette appelée râble. Puis la sole était nettoyée avec un chiffon humide noué à l'extrémité d'une longue perche. Mais ce travail de chauffe du four était lui aussi une affaire de spécialiste. Et c'est pourquoi on trouvait fréquemment dans chaque village un homme d'âge et d'expérience qui s'en chargeait. À la sortie du four, on laissait les tourtes se ressuyer en les plaçant à plat et la sole en l'air sur les palisses. Après quoi, lorsqu'elles étaient suffisamment refroidies, on les rangeait sur leur atelier.
À quelques flambées de distance, dans le fond d'un petit jardin, du pays beau comme la chance, j'ai retrouvé un four à pain. Il était couvert de gerçure depuis 50 ans, pour le moins qu'il n'avait reçu la brûlure du feu de bois. Mon four à pain l'était parti en refroidure vers les années 1920. 14 lui fit la vie dure. Les morts n'ont pas besoin de pain.
Nous allons nous intéresser un instant aux fours à pain. Avant que chaque foyer, au 19e et 20e siècle, possède son propre four à pain, les fours étaient collectifs. On en trouvait un par village ou un par hameau. Et encore avant, sous l'Ancien Régime, ces fours sont comme les moulins, des fours banaux. Ils appartiennent au seigneur et pour ces sujets, l'usage en est obligatoire et taxé, comme relevant du droit de ban par le paiement d'une redevance à tous ceux qui utilisaient ces fours. Ce privilège fut aboli en juillet 1793, mais la pratique des fours collectifs va perdurer pendant une grande partie du 19e siècle. Les fours individuels, souvent installés dans l'âtre de nos maisons rurales, sont des ouvrages en maçonnerie, généralement voûtés, ouverts par le devant. On utilise des briques naturelles pour la voûte, des briques naturelles en argile qu'il convient de cuire à 1000 degrés au moins. Quand on chauffe un four à pain, la température de la voûte atteint facilement les 500 degrés et la brique naturelle, en effet, reste souple, elle se dilate sous l'effet de la chaleur sans casser. Par contre, La sole du four, c'est-à-dire la surface sur laquelle sont placés d'abord le bois de chauffage que l'on retire lorsqu'il est en braise pour placer ensuite les futurs pains, est réalisée en matériaux réfractaires à base de silice ou de chaux mélangés à du sable. Dans notre zone, il existe quelques fours remarquables qui ont été recensés par Daniel Arnaud dans son guide des richesses artistiques de la Haute-Vienne. Au Méneret, dans la commune de Château-Ponsac, près de la maison dite du commandeur. Dans la commune de Comprignac, à Népoux, à Puy-Meunier, à La Vauzelle. À la Gervaudie, dans la commune de Magnac-Laval. À Puy-Bras et à La Valette, dans celle de Montreuil-Sénart. À Villemont, dans l'ancienne commune de Saint-Prié-le-Betou. À Saint-Maurat, dans la commune de Touron, on trouve aussi deux fours anciens, dont le hameau de Chez-Lucas, dans la commune de Saint-Martial-sur-Isope. Deux mots encore sur les combustibles utilisés. Dans les textes précédents, on nous a parlé du genêt et de l'épine noire. Ajoutons encore le noisetier, que l'on utilise en fagot, car il faut chauffer vite et à forte température.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici quelques indicateurs que l'on utilisait pour contrôler la température de cuisson, environ 300 degrés. Les pierres de la voûte doivent être devenues blanches en surface. Lorsqu'on passe un bâton de bois sur la pierre du four, il produit des étincelles. Et si un épi de blé laissé une minute ou deux au milieu du four porte ouverte noircie, c'est que la température est trop élevée. Les différents types de pain maintenant. Le pain, on l'a vu, était la base de la nourriture, c'était même quelque chose de sacré, la preuve en est, c'est que jamais on n'entamait une miche de pain sans faire une croix dessus avec le couteau. Le pain de campagne n'est pas toujours de grande qualité. C'est ainsi que Jean-Marie Autier de Blond, dans ses mémoires manuscrites, nous indique « À ce moment-là, on faisait cuire le pain tous les 8 ou 10 jours » et il ajoute « Il faisait bon avoir de bonnes dents ». Notre voisin Émile Guillaumin, dans son roman « La vie d'un simple », nous explique que vers les années 1830, nous mangions du pain de seigle moulu brut, du pain couleur de suie et graveleux, comme s'il eût contenu une bonne dose de gros sable de rivière. C'était nourrissant, disait-on, de laisser l'écorce mêlée à la farine. La farine de quelques mesures de froment qu'on faisait moudre aussi était réservée pour les beignets et les pâtisseries qu'on cuisait avec le pain. Cependant, l'habitude était de pétrir avec ses farines une petite miche d'odeur agréable à la mie blanche et à la croûte dorée. Émile Guillaumin de nous indiquer qu'il faudra attendre les années 1860 pour que, en raison du perfectionnement des moulins du pays, il était devenu possible de faire séparer le sonde avec la farine. À partir de ce moment-là, nous eûmes du bon pain, d'autant meilleur que je passais progressivement la proportion de seigle jusqu'à arriver à la supprimer tout à fait quand la moyenne de nos récoltes de blé eut augmenté. Ce fut un beau jour vraiment que celui où je vis trôner sur la table la miche réservée de mon enfance et que je taillais dans cette miche appétissante, le pain de tout le monde. Voici quelques variétés de pain que l'on trouvait particulièrement dans les villes depuis le Moyen-Âge. Le pain ordinaire, de farine, de sel et de levain. Le pain échaudé, qui était cuit dans de l'eau chaude. Le pain broyé, confectionné avec de la farine, longtemps battu à l'aide de deux bâtons. Le pain mollet, légèrement cuit, mais fait avec de la farine de premier choix. Le pain de mouton, pétri dans du beurre et saupoudré de grains de froment non moulu. Le pain de Noël, composé de farine, d'œufs et de lait. Le pain de métaille ou de méture, où l'on mélange de la farine de blé à la farine de seigle, etc., etc. Ajoutons que pendant les périodes de famine, on ajoute à la farine, ou au peu de farine, des ingrédients divers qui parfois provoquent la mort des consommateurs. De la fougère, de la paille, des écorces d'arbres, de la farine de gland, de l'argile et même parfois de l'ardoise pilée.
Viens là-bas Marion, il y a des violons, nous danserons. Marie, ton pas trompe, ton pas Marie trompe, ton pas Marie trompe, ton pas dans la sauce. Marie, ton pas trompe, ton pas Marie trompe, ton pas Marie trompe, ton pas dans le vin. Allons à la fête, où chacun s'apprête. Viens, réjouissons-nous, pressons, courons tous au rendez-vous. Marie, ton pas trompe, ton pas Marie trompe, ton pas Marie trompe, ton pas dans la sauce. Marie, ton pas trompe, ton pas Marie trompe, ton pas Marie trompe, ton pas dans le vin. on chante et l'on danse, on saute en cadence. Viens et passe bonjour, dansons tour à tour, dansons toujours. Marie, trompe-toi dans le vin.
Dans nos campagnes de basse marche, il faudra attendre le XXe siècle pour que les boulangers se rendent dans nos villages et hameaux. Écoutons Louis Peignot dans Bergère, éternelle bergère. Tous les samedis, du fond des prés, en bordure de la route, montait l'appel d'une trompe. Le boulanger annonçait sa présence aux femmes qui s'en allaient vers lui avec leurs baguettes de bois pour faire cocher les pains qu'on ne payait pas en argent mais avec du froment. Ses affaires n'étaient prospères qu'à la veille des jours de fête, car la miche blanche n'arrivait pas à supplanter la tourte de pain bis et la galette de blé noir. Voici maintenant comment Paul Lavergne nous raconte le passage du boulanger dans son roman « L'enfant sous les charmes ». On entendit la corne de Monsieur Guillaume. « Tourotou, tourotou !» disait la corne. « Sortez de vos maisons, voilà le boulanger. » Elle s'arrêtait un peu le temps de souffler, puis elle reprenait « Tourotou !» Touroton. Voilà Monsieur Guillaume, voilà ses pains, les miches, les tourtes et les couronnes. Touroton, touroton. La méture, le son et les mesures de blanche famine. Touroton. L'enfant traversa la cour et ouvrit la barrière. Sur la route de Mazerolles, vers le bas du village, la voiture du boulanger montait la côte. La trompe sonnait et le cheval s'arrêtait de lui-même devant chaque demeure. Monsieur Guillaume connaissait d'avance les désirs de sa clientèle. Il tendait une tourte ou un pain de méture, presque personne ne payait. Monsieur Guillaume tirait alors une règle de bois où l'on voyait des coches dessinées au couteau. Le client apportait une règle exactement semblable. Dès qu'il avait remis le pain, Monsieur Guillaume ajustait ensemble les deux règles et crac ! D'un seul coup de couteau, il enlevait à chaque barre un petit éclat de bois. Voilà, disait-il tout souriant. « Les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas, Nanon ? N'est-ce pas, Fanchette ?»« Oh, bien sûr, monsieur, répliquaient les femmes. On n'a jamais eu seulement ça d'erreur. On réglera le jour de la foire. Mais oui, mais oui. Ne vous tracassez pas, disait le brave homme. » Le cheval avait compris, il repartait de lui-même. « Toroton, toroton, toroton !» appelait la trompe. D'autres clients s'avançaient sur la route. « Une couronne bien cuite, monsieur Guillaume. Voilà, voilà, mes amis. » Les chiens venaient flairer la bonne odeur de miche et les poules étaient là qui ne perdaient pas une miette. « Un beau pain de Saint-Livre, monsieur Guillaume, dit grand-mère. Savez-vous que j'en ai manqué et que sans madame Mativa, j'aurais été bien en peine ?» Le boulanger est confondu, il s'excuse comme s'il y avait de sa faute. Il choisit un pain doré embelli d'une magnifique torsade. « Je vous en aurais envoyé par le facteur si j'avais su, dit-il. « Oh, monsieur Guillaume, fait miette ému par tant de complaisance. » « Voici un michon, fillette, » ajoute le boulanger, offrant à Doudy un pain minuscule. « Tu me diras s'il est bon. » Grand-maman règle son achat. Elle préfère ne pas avoir de coche et payer comptant. « Oh, je m'en aperçois moins, » dit-elle. « Et je vous casse 2 sous par pain, » dit Monsieur Guillaume. « Au bout de l'année, 2 sous font tout de même une somme. Vous êtes bien honnête. Au revoir, Monsieur Guillaume. À la semaine prochaine. » Le cheval s'est remis en route, Doudy accompagne la voiture jusqu'à la dernière maison. Grand-mère le lui permet, elle estime qu'on ne regarde jamais trop le boulanger et que la distribution du pain vaut tout le spectacle.
La boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère. La boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère. Elle en a, je les ai vus, j'ai vu la boulangère aux écus, j'ai vu la boulangère.
J'ai vu la boulangère aux écus, j'ai vu la boulangère.
La nuit pour mieux veiller dessus, je crois qu'elle ne dort guère.
La nuit pour mieux veiller dessus, je crois qu'elle ne dort guère.
Mais son trésor est connu, j'ai vu la boulangère aux écus, j'ai vu la boulangère.
J'ai vu la boulangère aux écus, j'ai vu la boulangère.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pendant longtemps, écrit Albert Gourceau, les boulangers travaillaient principalement pour les gens du bourg qui, ne récoltant pas de grains, ne pouvaient faire eux-mêmes leur pain. Comme ils avaient 2 sortes de clientèle, l'une aisée et l'autre de conditions modestes, ils faisaient 2 sortes de pain. Du pain de froment, ce bon pain blanc dit pain de miche est vendu sous forme de pain longs et minces de 1 ou 2 livres. Du pain de méture provenant d'un mélange de farine de froment et de seigle que l'on vendait sous forme de gros pains longs de 4 livres, donc 2 kilos, les mêlés, ou de pain rond, des couronnes de 4 à 6 livres, des tourtes de 6 livres et même davantage. Dans nos campagnes de basse marche, les boulangers ne se répandront dans nos villages et nos hameaux qu'après les années 1910. Notons encore que dans nos campagnes, bien des paysans, nous l'avons vu, ne paient pas leur pain en argent, mais en grains.
petites et grandes histoires de la basse marche.
On connaît l'importance du pain dans la liturgie et dans la symbolique chrétienne. On sait aussi que le slogan des manifestants du Front Populaire était le pain, la paix, la liberté. Et on se souvient aussi des émeutes de la fin du printemps et de l'été 1789, à un moment où le prix du pain atteint des sommets et où personne ne peut plus se le payer. Et de la réponse de la reine Marie-Antoinette, ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Qui fit revenir les manifestants en octobre en criant « Nous ramènerons le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Le pain étant la base de la nourriture des Français, les renchérissements du prix du pain ont souvent provoqué des émeutes du peuple de notre pays. Aussi très vite, le pouvoir politique va essayer de réglementer le prix du pain. Voici un texte qui concerne des communes de la Haute-Vienne sous le Second Empire en 1859 qui indique par exemple avec beaucoup de précision que le pain de froment peut contenir 36% d'extraction de son, que le pain mêlé doit être composé à parts égales de farine de froment avec un blutage à 36% et de farine de seigle avec un blutage à 32%. Que le pain de seigle, par exemple de deuxième qualité, dit grosse tourte, doit être composé de farine brute de seigle, etc., etc. Un autre document de la commune de Saint-Sulpice-Laurière est un compte-rendu de contrôle des boulangers de cette commune, les sieurs Chabaneau, Ballet, Briquet, Pascot et Combrouze. Commissaires de police du canton et les contrôleurs vont non seulement chez les boulangers pour vérifier la forme, le poids, la composition des pains, mais encore dans les cantines et chez les acheteurs, les particuliers.
Dansons la capucine, y a plus de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Youhou ! Dansons la capucine, y a pas de vin chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée au pain, jadis en basse marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Yannick Bobati, de Jules Marouzeau, d'Albert Gourceau, de Daniel Arnaud, d'Émile Guillaumin, de Jean-Marie Autier, de Louis Peignot et de Paul Lavergne. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, les Quatre Barbus, aux chanteurs Robert Lédet et Lucienne Vernet, aux musiciens Olivier Pi. Fanny. Et de « Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous » que nous écoutons en ce moment. En fait, cette chanson a été composée par Jean-Baptiste Clément, l'auteur du « Temps des cerises » en 1885. Il a transformé une chanson de sa grand-mère en chant révolutionnaire. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.